Les Petits Papiers de 22h30 ou quelque chose comme ça à 23h30 tous les mercredis ou quelque chose comme ça. Et en rediffusion de vendredi de 11h à midi. Aujourd'hui, bah, c'est le printemps des révolutions. Et aujourd'hui, on va en parler, on va aller au Chiapas, on va aller en Turquie, on va aller au Portugal, et puis on s'arrêtera pas là, parce que je parie qu'on va aller encore plus loin. Vous avez fait un choix aussi, un programme super dense. Vous commencez le 12 mai et vous finissez au mois de juin.
Hein, ouais, trois semaines complètes. On va commencer par le Chiapas.
Le Chiapas, oui.
Avec l'équipe de la Dérive qui va proposer en fait une série de projections sur les expériences qu'il y a eu là-bas. Alors l'intérêt du Chiapas en fait, c'est que ça dure depuis 20 ans, mais que c'est pas fini.
Ah non, c'est pas fini.
Contrairement à la révolution des œillets. Donc tous les lundis, on donne rendez-vous à tous les auditeurs à partir de 15h à la chapelle. Donc lundi 12, mardi 13, lundi 19 et lundi 26. Donc le 12, le 19 et le 26, on va projeter des films qui font un peu le point sur les expériences passées, sur le présent des Indiens là-bas. On rappelle que le Chiapas, en fait, c'est une région du Mexique où des Indiens se sont révoltés et ont décidé de mettre en place une vie autonome, autogérée, en refusant en fait l'exploitation agricole qu'ils subissaient. Hein. Ce sont des Indiens mayas, si mes souvenirs sont bons.
C'est ça. Le Mexique est donc est frontalier avec le Guatemala et ce sont effectivement les mayas qui sont ceux qui sont encore là. On va dire, voilà. Les Aztèques, il n'en restait plus trop, mais il y a beaucoup.
Voilà. Et ce qui nous intéressait, c'était pas tant de fêter les choses passées, c'était vraiment d'utiliser ces expériences passées pour parler du présent et parler du futur. Donc voilà, aller chercher dans cette expérience zapatiste ou néo-zapatiste, qu'est-ce qu'il y a d'actuel ici et maintenant et qu'est-ce que nous, à Toulouse, on peut en faire.
Donc un gros morceau, donc du 12 au 26 mai, c'est le Chiapas.
Voilà, alors le 12, le mardi 13, il y aura une conférence. Donc voilà, 4 jours sur le Chiapas. Après, le 14, le mercredi 14, on va aller du côté de la Grèce.
D'accord.
Oui, on va aller du côté de la Grèce. Et on va recevoir donc Yanis
Yolontas.
Qui en fait a réalisé un film qui s'appelle
« Ne vivons plus comme des esclaves ».
Voilà.
Voilà, comment on dit en grec, Yann ? Vas-y.
Ah, alors, en grec, c'est très joli, mais faut le dire. Hein.
« Na misisoume sandouli ».
Bravo, Yann.
je parle grec depuis très longtemps. Yanis Yolontas a fait ce film, c'est un philosophe qui fait le point donc sur l'expérience grecque suite à la décision du FMI en 2010 hein, de déclarer le pays en faillite et de prendre le pouvoir finalement sur la Grèce avec tout un tas de gens qui ont refusé cet état de fait. Et Yanis sera là pour témoigner après son film, discuter avec tout le monde sur les situations et les solutions qui sont proposées là-bas, ici et maintenant. C'est vraiment toujours une question d'actualité.
Alors c'est vrai qu'Yanis Yolontas, petit rappel, ceux qui écoutent Les Petits Papiers savent qu'on l'avait eu au téléphone pendant assez longtemps justement parce qu'il a sorti son film en avant-première ici à Toulouse, en fait dans le cadre du festival de Groland.
Avec
Fifi Gros. Non, il l'a sorti au cratère.
Il l'a sorti au cratère
et paraît-il que c'était une soirée du tonnerre. Voilà, comme quoi c'est pas forcément les plus grands lieux qui sont forcément les plus sympas. Et à ce moment-là, il était encore en train de finissait de récolter des sous parce qu'ils ont fait le film et ils ont récolté des sous ensuite. Et puis surtout, on peut dire ce film, on peut tous le voir gratuitement sur internet. Il est donc c'est une heure et quelques donc et c'est pur bonheur hein, donc de voir tout ce qui se passe de positif en Grèce notamment. Et voilà. Puis bon, ce qui se passe de pas bien aussi avec notamment on rappelle aussi le meurtre d'un rappeur qui a été tué par des fascistes. Donc, l'extrême droite. Voilà. D'accord. Donc Yannis sera là mercredi 14.
Voilà, mercredi 14
prochain.
Voilà, la semaine prochaine. Donc c'est effectivement, on vient dans les petits papiers là aujourd'hui pour voilà, vous mobiliser tous et toutes là qui êtes qui nous écoutez avec une un petit thé, un petit café sous la couverture en plein milieu de la nuit pour vous dire voilà de venir à la chapelle à ce moment-là dès la semaine prochaine à partir du 12, le 13, le 14.
On a du thé et du café nous aussi.
Et la semaine d'après...
Une bonne bière aussi, la bonne bière.
Ben, oui. La semaine d'après, on partira au Portugal.
Alors, on va redonner les dates parce que donc déjà on redonne les premières dates. Hein, ça commence du 12 donc au 19 mai. Donc toute la semaine prochaine, c'est déjà le Chiapas avec donc le mercredi la Grèce.
La Grèce, voilà.
Et hop, la semaine suivante du 19 au 24 mai. Alors.
Donc à partir du lundi 19, nous recevons nous commémorons le Portugal, les 40 ans de la Révolution des œillets, donc qui est une révolution un peu particulière, puisque en une nuit, un coup d'État militaire a renversé 48 ans de dictature. Et un coup d'État militaire est lié aussi à une guerre intensive, à un colonialisme intensif qui faisait d'énormes victimes, avec beaucoup de pauvreté. Et les militaires se sont organisés, ont renversé 48 ans de dictature. Donc ça c'est assez, les Portugais s'en souviennent bien, il y a pas mal de films sur le sujet, dont Capitaine d'Avril qui est le plus connu. Mais par contre ce dont on se souvient beaucoup moins bien, c'est l'année, les deux ans qui ont suivi ce coup d'État militaire. Parce que donc il y a eu le coup d'État militaire et toutes les péripéties politiques pour essayer d'avoir le pouvoir et quel parti, le parti portugais, le parti socialiste. Donc il y a eu tout ça, mais il y a eu surtout une prise de pouvoir du peuple portugais pendant deux ans sur les territoires, sur les propriétés, sur les usines. Ces gens-là, pour la première fois, ces gens-là qui bronchaient pas, qui supportaient tout, la misère, la faim, ils ont dit ça suffit. Et partout dans le Portugal, que ce soit à la campagne ou à la ville, il y a eu des expériences de prise de propriété privée et d'autogestion, de travail de façon coopérative, de prise de décision aussi sur un mode consensuel. Pour que tout le monde soit d'accord, mais avec quand même des débats assez virulents et assez nombreux qui duraient longtemps. Et donc ça allait très loin. C'est allé très très loin. Pour il y a certaines expériences qui ont duré plusieurs mois, qui ont réussi à tenir le coup. Les choses se sont organisées et on va dire que c'est les jeux politiques qu'il y avait autour qui n'ont pas permis à ces expériences d'autogestion, de prise d'une terre agricole, de prise d'une usine, pour fonctionner ensemble. Toutes ces expériences qui avaient lieu, elles ont eu l'herbe coupée sous le pied par les politiques qui ont en gros voulu remettre un système qu'ils connaissaient déjà, quoi.
Bien sûr.
Avec et donc les lentilles ont repris tout ce qu'ils avaient. Et donc voilà,
c'est une belle expérience en tout
c'est
cas.
C'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est qu'en fait, en fait aujourd'hui quand on voit le printemps arabe avec ce qui se passe, avec peut-être certaines personnes une certaine impatience de se dire comment quoi ces peuples là voilà ils se sont libérés puis sont pas capables de se mettre à un pouvoir je ne sais quoi moins démocratique ou nanana qui fonctionne, enfin bon on voit ce qui se passe en Égypte, les difficultés en Turquie, etc. Et en fait l'expérience du Portugal elle est très parlante de ce niveau là parce qu'en fait en 74-75 il y a beaucoup de réalisateurs qui ont vécu au Portugal à ce moment là et qui ont filmé ce qui se passait à l'instant T, qui ont filmé ces premiers mois de liberté et comment le peuple fait pour prendre la main, prendre le pouvoir et mettre en place des expériences autogérées. Et on voit comment la communauté internationale, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, avec la communauté, l'intelligentsia bien pensante, le PS, le PC, comment ils vont... Les films témoignent de la façon dont ces pouvoirs politiques vont venir gangréner les initiatives locales et les détruire totalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Portugais n'ont, comme l'a dit Nathalie, aucune mémoire de ces expériences-là.
Raison de plus, donc, de toute cette période que vous allez faire là, à la chapelle, justement, où vous mettez en place beaucoup de projections, à ce que j'ai vu. Hein. Donc, énormément de projections.
Oui, parce qu'en fait, ces films sont vraiment rarissimes.
Super.
Donc vraiment, on attire le vraiment. Vous qui nous écoutez, venez voir cette sélection qu'on a fait. Pour certains films, on a fait nous-mêmes les sous-titres parce qu'ils sont aujourd'hui introuvables en français.
On est encore en train de le faire.
On est devant les ordi à synchroniser. Que ce soit des films français, des films américains, des films portugais, des films allemands. C'est vraiment des perles qu'on est allé dégoter. Comme ça, je vais vraiment les dire dans le désordre. On va commencer avec Robert Kramer, qui est un immense réalisateur américain, qui a fait un film qui s'appelle Scène de la lutte des classes au Portugal. Et en fait, il fait un état des lieux du Portugal de l'époque, avec les tentatives d'autogestion mises en place et la façon dont le pouvoir va les détruire. Il montre ça vraiment de façon limpide. C'est vraiment très très instructif sur ce qu'on vit nous, et en fait comment le danger du pouvoir qui vient toujours détruire les actes révolutionnaires. C'est vraiment ça qui nous intéressait. Pourquoi parler de pourquoi commémorer un événement d'il y a 40 ans? L'idée pour nous, c'était de parler du présent, de penser le présent et de penser le futur. Donc voilà, Robert Kramer par exemple, ou un film de Rui Simões qui s'appelle Bon Peuple Portugais. Alors c'est magnifique parce que ce film a été censuré lorsqu'il a été fait en 1979 par Rui Simões, qui s'était exilé en Belgique pendant la dictature. Et en fait, il a fait un film qu'avec des images d'archives, avec et une voix off. Et il joue en fait le cinéma, les grands cinéphiles diraient ça. Le cinéma, c'est quoi? C'est une image et du son qui est mis l'un sur l'autre. Et il joue vraiment de ça. Et par exemple, il montre Nixon qui débarque au Portugal suite à la révolution, qui est accueilli par le nouveau président portugais. Il montre cette image de Air Force One qui arrive, et en bande son, il met Cabaret. Welcome, bienvenue Cabaret. Vous voyez cette comédie musicale, Welcome, bienvenue. Et on montre bien le cirque que représente la venue de cet homme politique, avec tout le monde qui se serre la main, etc. Et le film joue comme ça de montage. Et à un propos qui est vraiment sans concession. Et la chose qui est absolument incroyable, ça c'est la magie, on pourrait dire, de La Chapelle, c'est qu'en fait, on a rencontré une Portugaise qui a travaillé avec Rui Simões, qui est aujourd'hui un grand-père de 70 ans passé, et il sera avec nous ce soir-là, donc c'est le vendredi soir.
Il sera là, le réalisateur.
Il arrive
vendredi 23 mai, 19h30, retenez l'heure.
On diffusera donc son film Bon Peuple Portugais. Lui sera là le vendredi, le samedi, pour discuter avec nous, expliquer en fait quelle a été sa démarche, qu'est-ce qu'il a voulu dénoncer, les difficultés auxquelles il s'est retrouvé confronté. C'est vraiment des choses absolument incroyables.
Ça, c'est du beau, ça. Donc, ça va être donc le vendredi 23 mai à 19h30, Bon Peuple Portugais. Je trouve que t'as un super accent quand tu dis Simões.
On va accueillir aussi d'autres intervenants. On va accueillir Georges Valadas le premier jour, avec pour le film de Kramer.
Lundi 19 mai.
Lui, c'est un militant libertaire, pareil, portugais, qui il vit à Paris. Il va venir exprès à Toulouse pour l'événement. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un point de vue vraiment décalé sur la révolution des œillets.
Vous rappelez qu'il a déserté.
Il a déserté, effectivement. Il a fui le Portugal, tout à fait. Et lui, en fait, il a envie de démythifier.
En fait, il y avait un service militaire de 3 ans. Quatre ans.
Dis donc, ouais.
Et on envoyait les gens là-bas, on leur faisait 15, des fois ça allait jusqu'à 15 jours de formation, allez, va à la guerre. Et donc on les envoyait s'exposer sur des mines, et donc oui, il y a beaucoup de gens qui ont déserté comme Georges Valadas.
Et on rappelle, c'était l'époque des colonies.
C'est le dernier empire colonial à tomber, hein. La révolution des œillets va faire tomber tout le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau, tous ces pays. Et Georges Valadas, lui, en fait, le point de vue qu'il a, c'est justement de dénoncer le mythe de la révolution des œillets, les capitaines d'avril, l'armée qui prend le pouvoir. Donc dénoncer cette image-là en disant que ça, c'est une image finalement des vainqueurs. Et qu'on a complètement oublié les expériences autogérées, justement, dont nous, on a envie de parler. Donc lui, il sera là le lundi. Le mardi, on va recevoir Victor Pereira. C'est un historien de Pau, évidemment d'origine
portugaise,
lusitanienne, effectivement.
Portugais, c'est ça ?
Ouais.
D'accord.
Voilà. Il va parler en fait de l'influence de la révolution des œillets sur l'intelligentsia européenne, en fait. Comment tout un tas en fait d'intellectuels, on sort de mai 68, on est vraiment dans la défaite de ce moment-là. Il y a des révolutions au Chili, il y a des révolutions à Cuba, et en fait là, tous les jeunes militants se trouvent avec une révolution qui est à 2000 km de chez eux. Ils prennent les bagnoles et ils se barrent. Et en fait, ils vont visiter la révolution. Avec toute l'ambiguïté que ça représente. C'est-à-dire que c'est ces militants qui débarquent au Portugal sans comprendre la culture de ce pays, les tenants et les aboutissants, et qui vont vouloir amener des idées d'autogestion, d'autonomie, des idées d'extrême gauche qui vont parfois échouer ou qui vont être proches de la manipulation. C'est des choses assez ambiguës. Mmh. Et avec voilà tout ce que ça va être le mardi où on va diffuser un film là de Susana Diaz.
Là, on va s'intéresser aussi à la dictature de Salazar, parce qu'il y a quand même eu 48 ans de dictature avec une police politique lapide qui arrêtait les gens et qui les torturait pendant des périodes plus ou moins longues. Je crois qu'il y en a un, ça a duré 10 ans. Il était fou après. Et donc c'est les gens étaient arrêtés pour faire une manif d'étudiants. Ils pouvaient être arrêtés et torturés 3 mois, quoi. Mmh. Et en fait, quand on les emprisonnait, on prenait leur portrait. Alors, je sais plus, on m'a expliqué que pour quelqu'un qui torture, c'est une sorte de pouvoir aussi, on prend l'image. Donc, on prenait leur portrait, et parfois même pas pendant la torture, mais à des moments de l'emprisonnement. Et donc, Susana de Souza a récupéré tous ces clichés. Enfin, pas tous, hein, mais certains clichés. Elle a réussi à retrouver les personnes qui étaient sur les photos.
Ah ouais.
Et donc, le film est assez particulier parce qu'en fait, les photos défilent les unes après les autres. Elles sont immobiles. Il n'y a aucun effet, mais la voix de la personne qui a vécu la torture et qui raconte ce qui lui était arrivé est derrière, et on a presque l'impression de voir l'image vivre, tellement c'est fort. Et donc là, moi j'ai entendu, c'est le film, je pense, qui m'a le plus sidéré de tous ceux que j'ai vus pour l'instant. C'est, on entend des récits, des fois c'est burlesque, des fois c'est atroce, et puis on se dit surtout, mais quel courage ces gens ils ont eu, quoi, de résister. Est-ce que nous on aurait un tel courage aujourd'hui? Moi je me suis posé la question. J'espère que oui, mais on est impressionné par tous ces gens qui racontent ce qu'ils ont vécu et comment ils ont résisté. Donc voilà, donc ça c'est 48 de Susana de Souza qu'on diffusera mardi 20.
Mardi 20, voilà.
À 19h30, et je pense que c'est le bon moment pour passer un petit morceau justement de musique. Alors j'espère que c'est la bonne, mais voilà, on va s'y retrouver. C'est donc du portugais, on désannoncera après. Ah. Ah. Ça arrive, c'est normal.
C'est Zeca Afonso, c'est Grandola Vila Morena, c'est la chanson qui a servi en fait de signal pour le coup d'État le 24 avril au soir, il y a 40 ans.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola, Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade.
La preuve aussi n'en est que c'est bien du direct sur Radio Canal Sud 92.2. Et donc ça, c'était donc une chanson très émouvante, j'ai trouvé, voilà, avec un soupçon quand même de petit côté un peu militaire. Toutoum, toutoum, toutoum.
Et non, parce que l'histoire...
Oui, non, vas-y. Non, non. Ça fait penser au chant des partisans aussi, tu sais.
Non,
qui fait...
parce qu'en fait, j'ai entendu l'histoire de cette chanson par Zaka Alfonso lui-même, je crois, sur une émission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il voulait enregistrer les bruits de déplacement pendant les répétitions, et ça devait donner quelque chose de très doux, etc. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, ils ont merdé à un moment ou à un autre, et au final ça a fait ce bruit qui ressemble presque à un bruit de botte, alors que c'était pas du tout l'intention.
C'était quoi
initiale? C'était des mouvements de déplacement, des bruits pendant la répétition, de déplacement, mais ça devait être très doux.
Ah, dis donc.
Et au final, c'est ressorti beaucoup plus accéléré que le rythme qu'ils avaient prévu. Et ils l'ont laissé. Ils l'ont dit oui, finalement, ça
ça donne du sens, mais qui n'est pas le même.
Ouais. Oui, c'est vraiment. Il faut imaginer que cette chanson. Bon, Zeca Afonso faisait partie des artistes qui ont été complètement censurés au Portugal à l'époque. Et en fait, ils ont choisi cette chanson parce que les paroles, même si. Certains pourraient dire que dedans il y a Grândola Vila Morena, c'est le peuple qui chez toi commande. Même si à ces paroles, en fait, la chanson de Zeca Afonso n'était pas du tout revendicatrice, et ils l'ont choisie justement parce qu'elle n'éveillait pas les soupçons. Même si elle faisait partie des chansons censurées, c'était pas une chanson vraiment pour dire allez on y va quoi. D'accord. Et d'ailleurs le premier signal. Était la chanson qui a gagné en fait le concours de la chanson portugaise à la télé portugaise cette année-là, une chanson de variété, un homme qui dit adieu à sa nana qui vient de le quitter, et voilà, c'était ils ont fait le truc en deux temps avec des chansons qui n'éveillaient pas du tout les soupçons. C'est bon, voilà, c'est des petites anecdotes.
Oui, mais bah, j'imagine que pour pas mal de Portugais qui écoutent ça, ça a du sens, quoi. Ça rappelle des choses.
Ah
peut-être.
Oui, pour eux, c'est une chanson qui est aujourd'hui fondamentale.
Intéressant. Alors, le Portugal, je récapitule un petit peu parce qu'il y a tellement de trucs dans votre programme. Vous êtes allés comme des malades là, hein. C'est pas possible. On rappelle que pour le Portugal à la Chapelle, donc 36 rue Daniel Casanova à Toulouse, eh bien, donc ce sera du 19 au 24 mai, lundi 19 mai, projection donc du film de Robert Kramer et rencontre avec Jorge Jorge Valadas, donc déserteur de la mécoloniale portugaise et militant libertaire. Mardi 20 à 19h30, on était là-dessus. C'est donc ce 48 de le film de Susana de Sousa Dias.
Voilà.
Voilà, donc dont tu nous as si bien parlé Nathalie. Et puis le jeudi 22 mai. Alors
le jeudi, en fait, c'est un film qui est, alors pour le coup, qui a été programmé en 1977 au Festival de Cannes.
Tiens donc.
Ouais.
C'est bien, on est dans l'époque en plus de Cannes.
Dans la catégorie, je crois, Un certain regard. Et le film aujourd'hui est introuvable avec des sous-titres français. Ça s'appelle Continuer à vivre, les Indiens de Meya Praia. Alors Meya Praia, pour le coup, c'est drôle qu'on ait passé une chanson de Zeca Fonzo, parce que c'est une plage à côté de Lagos où Zeca Fonzo était professeur. Il était professeur de portugais, donc dans le sud-ouest du Portugal, à Lagos, c'est devant l'océan. Lagos, c'est la première ville d'Europe où il y a un marché aux esclaves. Il y a un bâtiment qui est le plus vieux marché aux esclaves d'Europe, puisque le Portugal avait vraiment conquis son empire sur la mer. Et sur la plage de Meya Praia, à côté de Lagos, il y a des pêcheurs qui sont allés s'installer, des pêcheurs sans domicile fixe, qui ont construit en fait des maisons sur le sable. Et c'était vraiment un scandale de santé publique. Et en fait, Salazar tolérait ces Indiens de Meya Praia sur la plage, parce qu'en fait, il permettait d'engraisser les bourgeois en fait de Lagos, de Portimão, des villes autour, sur les marchés aux poissons, où en fait les pêcheurs allaient vendre leurs poissons à des prix de misère, et ensuite les revendeurs, eux, se faisaient des marges absolument énormes, et ils entretenaient comme ça l'économie locale.
D'accord.
Et il y a un jeune architecte en 74, José Veloso, qui va profiter en fait d'un programme mis en place par le nouveau gouvernement pour proposer en fait aux Indiens de Meya Praia de leur construire des maisons.
Alors, Indien, c'était parce que... Pourquoi
c'est une chanson de...
C'est
une chanson de Zeca Fonzo qui a écrit sur ces paysans, sur ces pêcheurs,
ces pauvres,
et qui les a baptisés les Indiens de Meya Praia.
D'accord.
Et en fait, le film donc de Antonio Cunha Teles raconte l'aventure de ces pêcheurs pauvres avec cet architecte, et comment ils vont ensemble construire un quartier entier sur la plage, avec tout le monde qui participe, avec les incompréhensions, avec les problèmes de sous, avec les attentes déçues. C'est vraiment un documentaire magnifique sur l'apprentissage de la liberté.
Super.
Après 48 ans de dictature.
Génial. Ça, c'est donc jeudi 22 mai. Et vous continuez avec un concert, dis donc.
Oui. Oui, bah oui, le Portugal, c'est le fado. Il fallait bien qu'on trouve un fadiste. Et il se trouve qu'à Toulouse, on en a un absolument extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Santos. Alors lui, il chante du fado des rues. Il s'accompagne d'une guitare sèche, pas du tout la guitare portugaise. Il prend les fados qui, lui, le touchent. Et il nous chante ces histoires d'amour tragiques comme ça. Ce sera au coin d'un bar. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas le fado, venez ce soir-là, venez découvrir cette musique si particulière. Et d'ailleurs, normalement, Jean-Pierre sera là un peu tous les jours pour nous chanter un ou deux fados. Et ce jour-là, précisément, il fera un petit concert vraiment d'une demi-heure.
Super.
Le vendredi, on en a parlé, c'est Rui Simões qui vient, voilà. Donc ce réalisateur absolument incroyable. Et le samedi, on va finir en fait avec un pique-nique sous forme d'auberge, alors portugaise, hein, voilà.
Pas espagnole, c'est possible.
Donc le vendredi.
Oui, le vendredi, c'était Rui Simões qui vient, donc le bon peuple portugais.
Donc on donne rendez-vous le samedi, tout le monde à 13h pour venir partager vos plats. Voilà, amenez vos quiches, amenez vos acras de morue, amenez vos plats portugais ou d'ailleurs.
Vos quiches lorraines, c'est pas
vrai. Vos quiches lorraines, ben oui. Hein. les cassoulets, faites tout ce que vous voulez pour le partager avec nous. Et on reprendra les projections à 15h avec 3 films durant l'après-midi.
Oh ouais, c'est de la folie tout le samedi, là. C'est...
Ouais.
Très dense, hein, ouais.
C'est vraiment pareil, ce sont vraiment des perles. Je sais pas quoi vous dire à vous qui écoutez pour vous faire comprendre. Ce sont vraiment des documentaires absolument uniques.
Et parfois, c'est des documentaires sur des documentaires.
Oui, justement. Donc, on y arrive. Donc, le samedi après-midi, il y en a 3. Il y a Republica, Journal du Peuple. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'en fait, ça montre. C'est une lutte qui montre le tournant de la prise du pouvoir des partis démocratiques. La Republica, c'était le journal de gauche de l'époque, et les ouvriers de la Republica, les ouvriers d'en bas, c'est-à-dire les typographes, ceux qui mettent en page le journal, décident de prendre le pouvoir sur le journal en
Yahoo.
Disant c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le construisons et qui écrivons dedans. C'est plus les rédacteurs en haut qui nous dictent ce qu'on doit mettre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le PS envoie une manifestation contre les ouvriers qui ont pris leur outil de travail. Et ce qui est magnifique, c'est que la police militaire de l'époque, le COPCON, qui était un, donc on est encore avec les militaires qui sont là, va refuser d'intervenir pour déloger les ouvriers qui sont dans le bâtiment en train de faire leur journal, en disant c'est les ouvriers qui ont leur outil de travail, qui doivent le garder. Et le documentaire 25 ans plus tard va discuter avec les intervenants de l'époque et ils vont évidemment se faire niquer de façon magnifique par le PS, par tous les journaux de gauche européens bien sûr, qui vont dénoncer cette occupation de fascistes. On retourne les choses exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le printemps arabe dans les pays, avec les informations complètement biaisées qu'on a et qui tue dans l'œuf ces initiatives.
Republica, Journal du Peuple. Beau.
L'autre film super, c'est Nous, ouvrières de la Saugrenthal. Ça, c'est un rare témoignage de la place des femmes dans la Révolution.
Et fait par une femme.
Et c'est vraiment terrible parce que ce sont des ouvrières qui prennent leur usine de tissu. Et 30 ans plus tard, Nadeja Tiyou, qui est une Française d'origine portugaise, retourne voir ces femmes qui sont aujourd'hui complètement, cette expérience est complètement dénigrée. Par les Portugais eux-mêmes, non, mais c'était des jeunes et se sont fait monter la tête par les révolutionnaires. On les laisse, faut les laisser. Et ces femmes aujourd'hui, c'est très beau parce qu'elles ont vraiment un point de vue qui est vraiment très mitigé sur leur expérience. Certaines qui en sont très fières, d'autres qui disent mais ça a servi à rien, on s'est fait avoir vraiment en beauté. Et on s'est fait avoir pourquoi ? On s'est fait avoir par le pouvoir, toujours le pouvoir démocratique, mais aussi par nos maris. Par nos mecs qui eux refusaient qu'on aille se balader dans le Portugal pour aller vendre les habits qu'on cousait dans notre usine autogérée. Et comment le pouvoir patriarcal, le pouvoir politique a tué dans l'œuf ces expériences-là. C'est vraiment un laboratoire.
Ça leur a aussi apporté des choses quand même.
Oui.
Oui.
Ça a aussi éveillé chez elles aussi une lutte des classes domestiques où tout d'un coup elles se sont dit. Mais pourquoi je me laisse faire comme ça aussi ? Mais j'en ai marre. Et donc voilà, il y a des révolutions qui en entraînent d'autres.
Exact.
C'est ça qui est vraiment, vraiment énorme. Bon, je passe sur le film de João César Monteiro, qui est un cinéaste absolument incroyable.
Un beau titre, en tout cas.
Oui, Que ferais-je de cette épée ? C'est João César Monteiro travaillait notamment avec Manuel de Oliveira. Donc voilà, c'est... un très très grand film aussi, je le passe juste pour faire un focus sur la dernière soirée, parce que là vraiment si vous n'avez pas envie de venir aux soirées précédentes parce que vous vous êtes dit qu'on vous les avait pas bien vendues, celle-là faut vraiment que vous veniez. S'il y en a une à choisir, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a deux films qui sont extraordinaires. Le premier, ça s'appelle Torre Bella, c'est d'un Allemand qui s'appelle Thomas Harlan. Thomas Harlan, c'est le fils d'un réalisateur allemand nazi qui a fait des films de propagande pour Hitler. Et lui se retrouve avec ce passé-là et va devenir en fait un réalisateur militant d'extrême gauche. Et il va réaliser des films de lutte. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en 74-75, il est au Portugal. Une propriété, des milliers d'hectares du duc de Bragance complètement abandonné, des paysans qui décide de la prendre, et Thomas Harlan qui est là avec sa caméra pour les filmer. Et on assiste à des scènes absolument incroyables. Les paysans qui essayent de comprendre qu'est-ce que c'est l'autogestion. Il y a une scène très très célèbre où le héros du film, si on peut dire qu'il y a un héros qui s'appelle Wilson, essaye de convaincre un paysan de donner sa bêche à la collectivité. Et le paysan lui dit oui, c'est ça, t'as envie que je donne ma bêche, alors je vais aussi donner mes habits, je vais me retrouver, je vais avoir plus rien, qu'est-ce qu'ils donnent les autres? Et Wilson, qui essaye de lui expliquer, lui dire mais tu comprends pas que là, en donnant ta bêche, tu vas permettre au collectif d'avoir un outil de travail et tu vas te retrouver ensuite, de par le travail du collectif, plus riche que tu l'es maintenant. Et l'impossibilité pour le paysan de comprendre
et
ça.
Oui.
Et le film témoigne de toutes ces expériences-là, avec, pareil, une scène absolument incroyable des paysans qui vont voir les militaires à Lisbonne et qui leur disent « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Et les militaires qui leur disent « Mais nous attendez pas. Là, vous prenez, vous occupez, vous faites. Et la loi, elle viendra ensuite. » Et alors aujourd'hui, quand on voit avec le nouveau maire qui vient de nous arriver, avec toutes les mesures qu'il est déjà en train de prendre contre les prostituées, contre les squats, avec les expulsions qu'il y a
contre
eu
les herbes créa, folles,
contre les herbes folles avec les prairies, c'est vraiment salutaire de voir des films comme ça où on voit des gens qui dont on ne s'attendrait pas qu'ils aient un tel discours, des militaires qui viennent dire clairement, mais ne nous attendez pas, prenez. Nous, on validera ensuite. La loi viendra ensuite. N'attendez pas que la loi, elle agisse pour vous. C'est vraiment extraordinaire, ce documentaire. C'est...
Et puis, il y a des scènes aussi qui sont très drôles. Il y a un moment où ils investissent la maison du duc. En fait, ils se posent beaucoup de questions avant d'investir, parce que c'est quand même la maison du duc. Et finalement, ils décident d'y aller. Et là, donc, ils ouvrent les armoires, et ils regardent un petit peu, ils sortent les vêtements, ils les essayent. Et c'est assez tendre. Enfin,
c'est l'an zéro, hein, quoi.
Ils sont là, ils essaient de pas abîmer, oui. De pas y toucher. C'est assez drôle. Qu'est-ce qu'on va en faire, un centre culturel? Non, on fera nos réunions là.
Génial.
C'est vraiment, c'est vraiment très beau. Et 35 ans plus tard, il y a un réalisateur portugais qui a réalisé, en fait, un documentaire sur Torre Bella de Thomas Harlan, okay. Où 35 ans plus tard, il est retourné voir les acteurs, il est retourné voir Thomas Harlan qui, à l'époque, était mourant, donc on n'entend que sa voix et que sa voix off, en
donc
fait.
Donc là, c'est le deuxième film.
C'est le deuxième film qui s'appelle La Ligne Rouge et où, en fait,
Ligne Vermelha,
tout à fait, où José-Philippe Costa interroge le cinéaste sur son geste. Parce qu'en fait, Thomas Harlan, lui, il voulait juste témoigner de ce qui se passe. Et 35 ans plus tard, il admet en fait que la caméra a complètement bouleversé l'action des paysans. Et, on va pas dire manipulé, mais a amené la présence de la caméra, les a amenés à faire des choses que normalement ils n'auraient pas fait.
Rien n'est neutre.
Rien n'est neutre. Et c'est ça qui est, c'est très intéressant parce que ça interroge le cinéma militant, la position de celui qui regarde et comment, ben, avec la meilleure volonté du monde, et ben, on va manipuler. Voilà.
Et puis en plus, c'est assez argumenté parce qu'il y a, en fait, il explique ce réalisateur qu'à un moment, Thomas Harlan manquait d'un aspect dramatique dans ce qu'il filmait. Et c'est justement là que la scène de la maison qu'ils vont ouvrir et envahir intervient. Et en fait, le réalisateur là, Philippe Costa, j'ai aucune mémoire des noms, désolé. Il va dire mais la caméra là, mais la façon dont vous étiez là, mais c'était pas possible, mais enfin il va sous-entendre et puis il va argumenter qu'on les a pas un peu motivés, est-ce que les choses ont pas été un peu organisées, parce que c'est bizarre comme ça, c'est très tout bien déroulé, vous
comme
étiez
une
juste
mise en scène.
Au bon moment là où il fallait. C'était bizarre, quoi. Donc, il y a tout un tas de... C'est une argumentation assez drôle. Donc...
Et ce soir-là, on recevra deux personnes. Francis Pisani, qui est un journaliste français, en fait, qui est allé... qui a été à Torre Bella à cette époque-là, qui a vécu avec les paysans, qui a participé à la coopérative et qui en a tiré un livre qui est paru en 1976. Il vit aujourd'hui à Barcelone et il a accepté de venir pour témoigner de ça. Et il y aura, croisons les doigts, Camilo Mortaga, qui est lui un des paysans avec Wilson, qui a fait partie de la coopérative de Torre Bella. Pareil, un papy, je sais pas quel âge il a, de 70-74 ans.
Et qu'on voit dans le film.
Qu'on voit dans le film, et ça va être des rencontres vraiment extraordinaires.
Ça, c'est samedi 24 mai, qu'on se le dise. Donc, on aura fait un beau voyage donc, au Portugal pendant donc, toute cette semaine-là. Et puis, on va maintenant enchaîner aussi avec tout ce qui se passe en Turquie. Mais peut-être qu'avant, on va peut-être passer un morceau de musique. Par le hasard, vous savez, des systèmes de clés USB, le système MP3, j'espère que ce sera ça. Et si c'est pas le Portugal, ce sera la Turquie. Donc, on y va. D'ailleurs, c'est Vai Vai. Alors, on verra bien. C'est parti. Et on désannoncera, bien sûr. Vous êtes toujours sur Canal Sud, sur Les Petits Papiers. Et on est sur le printemps des révolutions.
Gazmaz kesi ala benziyor.
Gazmaz kesi ala benziyor.
Biber gazı bala benziyor.
Biber gazı bala benziyor. sıkıyor.
Benim tomam bana sıkıyor. Benim tomam bana sıkıyor.
Bulunur bir çare halk ayaktadır. Taksim yolunda barikattadır.
Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay bay?
Çapulcu musun bay bay?
Cimisin bay bay, cimisin bay bay, gaz maskesi biçim biçim,
gaz maskesi biçim biçim,
yürüyorum Taksim için,
yürüyorum Taksim için,
üşenme gel hakkın için, üşenme gel hakkın için.
Bulunur bir çare
halk ayaktadır.
Taksim
yolunda barikattadır. Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay bay?
Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin
bay bay? Çapulcu musun bay bay?
Eylemci misin bay
bay? Gaz maskesi çeşit çeşit,
gaz maskesi çeşit çeşit.
Gezi parkı senle yaşat.
Gezi parkı senle yaşat.
Vur tencere çatal kaşık. Vur tencere çatal kaşık.
Bulunur bir çare
halk ayaktadır.
Taksim
yolunda barikattadır. Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay
bay?
Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay bay?
Çapulcu musun bay bay? Eylemci misin bay bay?
Çapulcu musun bay bay?
Eylemci
misin bay bay? Bay bay. Çapulcu musun bay?
Il y a de la joie dans l'air, il y a de la joie dans l'air dans cette chorale. Alors cette chorale, c'était pas, donc c'était la Turquie. Là, on était déjà en Turquie. Et donc, mais tu vas nous en parler, Dajat, tu peux peut-être nous dire qu'est-ce qu'on vient d'entendre.
Alors, moi, j'ai pas fait de recherche sur les chansons que.
C'est
que
une chorale, en tout cas.
Mais c'est une chorale, effectivement, qui s'est. Alors, je sais pas si elle était montée avant ou pas le soulèvement de Gezi Park, mais en tout cas, ils ont. En fait, ça vient d'une vidéo, là, cette chanson. Ils sont dans le parc et ils sont en rond, comme ça, entourés avec plein de monde autour. Et ils chantent. Ils chantent, voilà. Et c'est Çapulcu, en fait, en turc, ça veut. Enfin, la traduction la plus proche, ça voudrait dire vandale. Et c'est donc Erdogan, le premier ministre turc, qui a traité les manifestants et le peuple turc qui se soulevait de vandales. Et du coup, ils ont repris ça à leur propre compte. Il y a eu énormément de chansons, de textes, aussi de slogans, de graffitis écrits sur les murs qui reprenaient cette terminologie-là du vandale. On va dire.
Alors peut-être très bien, et donc peut-être un petit retour sur Gezi Park, justement sur ce qui s'est passé rapidement il y a un an. Donc on s'était déjà vu ici sur cette antenne à ce propos-là à l'époque.
Ouais. Donc effectivement, ça va faire un an tout pile autour du 27-28 mai. Ce qui s'est passé, c'est que bon. Il y a énormément de prémices et ça va être très compliqué. Moi, je tiens pas le crachoir aussi bien que Yann, hein. Je préviens. J'ai pas autant d'emphase aussi.
Ça va très bien, ça va très très bien.
Mais du coup, voilà, ce qui s'est passé, donc, c'est que ça s'est. Bon, il y avait plein de prémices qui montraient quand même que le gouvernement turc resserrait un peu les boulons et proposait des lois de plus en plus autoritaires, de plus en plus liberticides et tout ça. Et en même temps, il y a énormément. Donc, à Istanbul, qui est quand même une des plus grosses villes du monde, hein, 15 millions d'habitants, il y a donc des modifications urbaines en permanence, une urbanisation un peu folle, et entre autres, donc il y a ce parc qui se trouve
Gezi Park,
voilà, qui se trouve au milieu du centre un peu névralgique. historique et puis de sortie, un peu un centre commercial quand même d'Istanbul. Donc ce quartier-là, il représente à la fois du coup le capitalisme de manière un peu effrénée, et en même temps il représente aussi une certaine forme de liberté, puisque c'est aussi là-bas que se côtoient des femmes en mini-jupe, des femmes en foulard, des travestis, des travailleurs et travailleuses du sexe, etc. Et donc il y a ce parc, voilà, qui est au milieu de ce quartier, sur une place qui est très très importante, qui est la place Taksim, qui est notamment la place où se déroulent tous les 1er mai en Turquie. D'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais les 1er mai sont souvent interdits de cette place-là.
Moment de contestation important.
Moment de contestation très important en Turquie. En 77, il y avait eu 14 morts, je crois. La police avait tiré sur la foule à balles réelles, donc des syndicalistes et tout ça. C'est une place qui a une lourde histoire politique. Du coup, ce parc, voilà, le Premier ministre a décidé de détruire le parc pour en faire un centre commercial. Un mall, on appelle ça en anglais. Et il se trouve que des centres commerciaux gigantesques, il y en a partout à Istanbul, et la moitié de la population n'a pas les moyens de faire ses courses là-bas, quoi. Donc c'est un peu absurde. Et du coup, ça a commencé, voilà, par un petit groupe qui s'est un petit groupe d'écologistes, d'ailleurs majoritairement, qui s'est opposé à la destruction du parc. Donc, quand les pelleteuses sont arrivées, ils avaient monté des tours de garde, voilà, pour s'opposer à ce que les pelleteuses commencent à détruire les arbres, à les faire tomber et tout ça. Jusque-là, c'était pas vraiment un soulèvement populaire. Et puis, la réaction du Premier ministre a été d'envoyer les forces de l'ordre de manière extrêmement violente. Ils sont venus une première fois, ils ont brûlé les tentes, ils ont détruit le matériel, ils ont... Enfin, ça a été très violent. Et en réponse à ça, il y a eu quelque chose qui a été complètement... Enfin, personne ne s'attendait à une chose pareille, c'est qu'il y a eu un véritable soulèvement populaire, quoi. Du jour au lendemain, les gens ont commencé à descendre dans les rues de manière massive et à venir apporter son soutien à cette lutte-là qui peut paraître dérisoire vis-à-vis d'autres luttes qui sont en cours en Turquie. C'est un peu l'étincelle qui a fait...
L'étincelle, exactement. Ouais. Voilà. Et la place Taksim, on en a entendu pendant des semaines.
Et voilà, et ça a duré comme ça pendant des semaines. Et puis aujourd'hui, bon, du coup, il y a eu une autogestion qui s'est mise en place très vite, de manière très spontanée, très forte sur le parc. Ils ont quand même réussi à se réapproprier tout cet espace-là, cette place. Il faut s'imaginer qu'elle est vraiment immense. C'est démesuré, quoi. Et voilà, il y a toute une autogestion qui s'est mise en place. Ils se sont réappropriés presque un quartier entier. Ils ont monté des barricades de 5-10 mètres de haut. Ils ont dépavé les rues. Enfin, il y a eu une solidarité très forte et à la fois un affrontement, une répression très très dure, et qui a duré plusieurs semaines. Et puis l'été est passé par là, parce que bon, majoritairement, faut quand même se dire que c'était une lutte qui était suivie par les classes moyennes. Donc l'été est passé par là, les gens sont partis en vacances, les classes plus populaires sont retournées à leurs activités.
Et aujourd'hui ?
Et aujourd'hui, donc bon, bah là, au 1er mai dernier, on a entendu, pas tant d'ailleurs, hein, dans les médias, mais il y a eu le Premier ministre, ce qui a été vécu comme un peu comme une provocation, a refusé l'entrée de la place aux manifestants, à part à quelques syndicats pro-gouvernementaux, qui ont pu défiler tranquillement sur la place, alors que tous les autres étaient interdits d'espace. Mmh. Et voilà. Et du coup, il y a eu, pareil, répression très forte. D'accord. Bon, mais je pense que ce mouvement-là est loin d'être terminé en Turquie. On va entendre parler de la Turquie encore pendant un moment.
Et là, on va en entendre parler à la chapelle du mercredi 28 mai jusqu'au dimanche 1er juin, carrément. Alors, on va devoir faire un peu vite pour un petit peu donner tout ce qu'il y a. Je vous dire rapidement que le premier, donc mercredi 28 mai,
ce sera pas à la chapelle le 28 mai. Ouais.
Ce sera à la librairie Terra Nova, donc rue Gambetta, une très bonne librairie. Une rencontre avec Pinar Selek. Alors, si tu peux
Alors, donc Pinar Selek, c'est quelqu'un de très important pour la Turquie et pour la France. C'est une femme qui est à la fois féministe, sociologue, auteur et une militante politique voilà, très engagée. Là, elle viendra donc à Terra Nova présenter son dernier ouvrage qui allie un peu féminisme et antimilitarisme.
Service militaire en Turquie et construction de la classe de sexe dominante, devenir homme rampant.
Voilà, devenir homme rampant, ouais. Du coup, voilà, c'est une femme qui est très très importante, qui est exilée en France depuis 98, si je me trompe pas, qui a été arrêtée en Turquie, torturée, etc., pour être sociologue, tout simplement, bon, aussi pour être féministe et politisée. Mais voilà, on lui a demandé de donner les noms des personnes qu'elle avait rencontrées dans le cadre de ses études de sociologie qu'elle faisait sur le PKK, qui est le parti communiste kurde, donc qui a pris les armes pendant un certain temps. Là, ils les ont déposées il n'y a pas longtemps. Donc voilà, elle a été arrêtée, torturée pour donner ces noms-là. Elle les a effectivement jamais lâchés. Et puis, ils ont fini par la relâcher. Elle s'est enfuie en France. Et là-bas, il se trouve qu'elle a été quand même condamnée à la prison à perpétuité. Donc, au bout de 25 années de lutte, elle continue, elle, à faire des démarches juridiques pour être relaxée. Elle a d'ailleurs eu un procès là, le mois dernier à Ankara, et on attend toujours la réponse.
Binar Selek, donc rencontre avec elle à la librairie Terra Nova, mercredi 30.
Voilà,
mercredi 28 mai, 28 à 17h.
Ouais, il y aura aussi la préfacière Jules Falquet, qui est aussi une féministe et puis qui travaille sur le genre, qui sera présente. Donc ça sera très intéressant.
Très intéressant, très bien, le livre à se procurer en tout cas. Jeudi 29 mai, ça se passe à La Chapelle cette fois-ci.
Voilà, donc jeudi en fait, on va commencer du coup les 4 journées qui se feront véritablement dans les lieux de La Chapelle. Donc je pense que c'est important de venir aussi parce que ça va être assez fou. On va se réapproprier nous-mêmes tout l'espace de La Chapelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement la place, la salle que tout le monde connaît, mais on va aussi ouvrir les deux salles de derrière.
Ah, vous allez squatter le squat de La Chapelle.
Voilà.
Pas mal.
Et du coup, on va mettre en place des installations vidéo. Il y aura une exposition photo, il y aura une table de presse, on va faire un atelier de sérigraphie. Et donc le jeudi, on va ouvrir les portes vers 17-18h. Et voilà, tout le monde pourra venir voir tout ça. Il y aura un vernissage de l'exposition. Je sais plus quelle heure on a mis.
Vous avez mis 19h30 avec medze, bien sûr.
Voilà, avec des medze qui sont des petits plats turcs.
Une exposition du photographe Mikael Jiménez Mateosyan.
Voilà, qui est un photographe arménien qui était présent à Gezi et qui exposera des photos qu'il a prises sur le vif du côté des manifestants à ce moment-là. Mmh. Et ensuite, à 21h30, donc à 20h, on s'était dit que voilà, qu'on ferait un petit apéro avec les médias pour discuter, rencontrer le photographe qui sera présent, qui sera présent d'ailleurs pendant les 4 jours. Et à 21h30, du coup, on va projeter Ecuménopolis, donc qui est un film qui aborde surtout la question de l'urbanisation à Istanbul. Faut que je fasse vite. La question de l'urbanisation à Istanbul et voilà, ce qui nous permet un peu de contextualiser, de montrer tout ce qui se passe aussi au-delà de cette petite, de cette énorme place et de ce petit parc au milieu de cette énorme place. Le vendredi, on fera un débat du coup avec Binar Selek, pour le coup à La Chapelle.
Formidable.
Hein. Où on va discuter, mais tu as le programme plus développé que moi.
Oui, donc voilà, attends, c'est la situation turque contemporaine.
Voilà, du coup on va discuter avec elle un peu des nouveaux mouvements de contestation en Turquie, des nouvelles formes de contestation, de la manière dont les nouvelles générations se réapproprient aussi la lutte et créent de nouvelles formes de lutte.
Quel âge a-t-elle maintenant, Binar Selek? À peu près.
Une trentaine d'années, je dirais.
Pas plus, pas plus, hein. D'accord.
Parce que ça, tu penses pas, parce que si en 98 elle a été condamnée,
elle était toute jeune, hein, en 98, hein, elle était pas, bref.
20 okay. ans, mettons 20 ans, oui, elle doit avoir 38-40 ans.
Ouais, voilà, 38 ans.
D'accord, ok.
Aucune idée, question
donc,
de piège.
Une belle rencontre vendredi 30 mai, donc à 18h, la rencontre.
Voilà, et puis ce sera une rencontre type baratin, du coup, il y aura un peu un moment type conférence avec elle, et puis ensuite un retour avec le micro, et au bout d'un moment, on coupera le micro, on mettra les tables en carré, puis on mangera tous ensemble.
Sympa.
Pour ceux aussi qui n'aiment pas trop discuter au micro, on pourra discuter autrement.
Super, ça c'est donc le vendredi 30 mai.
Voilà, Binar Selek qui sera présente du coup aussi pendant les 4 jours.
Samedi 31 mai, alors cette fois-ci c'est à 17h une projection de petite vidéo automédia du squat Don Quixote du quartier de Kadıköy.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc après le mouvement de Gezi, en gros, le parc et la place ont été évacués par les forces de l'ordre. Se sont installés du coup plein de petits forums de quartier dans tous les parcs de la ville. Alors faut s'imaginer, hein, c'est énorme. Et donc dans un de ces forums-là, dans un quartier qui est un quartier plutôt bourgeois d'ailleurs, Cadécueil, les personnes ont décidé d'ouvrir un bâtiment, de squatter un bâtiment, ce qui se faisait pas du tout à Istanbul avant. Et donc se sont installés dans cet espace et ils ont créé eux-mêmes un peu sous la forme d'automédia plusieurs petites vidéos pour expliquer ce qu'ils faisaient. Donc on va commencer par projeter ces vidéos-là. Et ensuite, on aura une réflexion. L'idée, c'est d'avoir une réflexion ensemble, donc un petit peu débat sur quelles peuvent être les suites d'un mouvement spontané. Donc, où on discutera, voilà, est-ce que le squat, ça peut, par exemple, être une forme de continuité de la lutte.
Intéressant. Donc, samedi 31, et c'est pas fini. Donc, il y aura dimanche 1er juin, encore un moment festif de détente.
Voilà, dimanche, ce qu'on fera, c'est qu'à partir de 15-16 heures, on va mettre en place un tournoi de tavla. Donc le tavla, c'est du backgammon. Hein.
D'accord.
Donc on aura une vingtaine de jeux. On va mettre en place un espèce de tournoi. Et puis voilà, toute l'après-midi, on sera tranquille, on boira du thé, café.
Il y aura un peu de musique aussi.
Voilà, après, on va manger tous ensemble. Et puis le soir, un concert, je l'espère, mais je suis encore en attente de réponse puisque je viens de me faire lâcher par un musicien.
Mais je suis sûre que tu vas retrouver quelqu'un d'autre.
Mais je cherche activement et j'espère bien qu'il y aura de la musique parce que c'est vrai que dans la culture turque, la musique est aussi très importante.
Quand même. Et on n'aura pas le temps d'écouter encore un autre morceau, j'en suis navrée. Mais vraiment, c'est super dense, super chaud. On rappelle quand même toutes les dates, hein, donc rapido.
Donc oui, c'est du 12 mai au 1er juin.
Mais il y a aussi, oui, je pense, un appel important d'ailleurs, voilà, me semble-t-il, voilà, à lancer.
Donc évidemment, pour organiser toute cette série d'événements, on a besoin, on est quelques-uns quand même à l'atelier idéal et à la chapelle en général, on est quelques-uns, mais on a quand même besoin d'aide pour faire beaucoup de choses. Bon, c'est des petites choses, c'est sympa, l'ambiance est sympa, donc que soit nous aider à entretenir le lieu, à tenir la régie, le son, la lumière, à faire à manger, parce que nous on fait à manger, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a à manger, donc on a besoin de...
Bon.
Et c'est bon, merci Fatima.
Merci.
Et donc on a besoin de gens qui amènent une recette et puis qui organisent un petit peu, ou juste des gens qui veulent donner un coup de main et piocher des légumes. Donc le mieux pour les personnes qui veulent être bénévoles, c'est de nous contacter. Donc pour les bénévoles, c'est moi qui réceptionne un petit peu les propositions. Donc vous écrivez à nathalie@atelieridéal.lautre.net, ou alors vous allez sur le site de la chapelle et vous écrivez à contact, l'adresse contact qu'il y a, et vous dites que vous voulez bien et donner un coup de main. Donc ça peut être un jour, ça peut être plus, c'est comme vous voulez. Et puis vous aurez aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le lieu et le projet qui est porté par le lieu, parce qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Mais la chapelle, c'est pas uniquement un lieu où il y a des événements, c'est un lieu qui vit au quotidien, qui défend des valeurs,
et qui est toujours en danger
plus que jamais, vu que la mairie
vient de changer. Exact.
Et donc voilà, c'est un vrai projet. Donc si vous avez envie d'en savoir plus et peut-être éventuellement d'en faire partie, ben venez nous rencontrer aussi, c'est un bon moyen.
Merci beaucoup à vous trois, vraiment.
Merci,
donc
Fatima.
On se rappelle Printemps des Révolutions à la chapelle, donc du
12 mai au 1er juin.
C'est attendu. Alors il me reste à peine un tout petit peu de temps pour vous dire que la semaine prochaine, du lundi 12 au dimanche 18, le vent se lève à Job. C'est donc la SCOP d'éducation populaire, le vent se lève, qui vous propose un programme du tonnerre du lundi 12 au dimanche 18. Allez voir donc sur le programme de Job et sur le programme également de la SCOP, le vent se lève. J'ai pas le temps de tout vous dire aujourd'hui, mais c'est formidable. Également vous dire deux choses. Monsanto, comment nous résistons à Monsanto, c'est un livre que l'on trouve d'ailleurs à la librairie Terra Nova de Jacques Dandelot, faucheur volontaire d'OGM, qui va être là donc la semaine prochaine ici au Petit Papier, et que samedi 10 mai à Montbrun-Bocage, il y a une soirée de soutien aux faucheurs volontaires avec stade conférence et concert de Soufrite Maracas à Montbrun-Bocage. Ça, on le retrouve tout sur Démosphère Toulouse, bien sûr. Merci beaucoup à vous tous. C'était Les Petits Papiers en direct de mercredi soir à vendredi 11h à midi en rediffusion. Merci beaucoup, bye bye.
Au revoir.
Bye à vous. Ciao.